Alors, je pense qu'à partir du témoignage d'Aïcha, on a bien sûr, comme tu le disais Evelyne, eu un exemple très concret de ce que la journaliste de ton livre, Hinde Tarji, si je prononce juste, Dieu sait, ça ne se prononce pas comme ça, elle a retrouvé en circulant dans beaucoup de pays arabes, parce que finalement son enquête, comme tu nous l'as amorcé au début, ne s'est pas faite seulement au Maroc, son pays d'origine, mais elle a été voir dans plusieurs pays différents. Alors peut-être que tu pourrais nous expliquer d'abord qu'est-ce qui lui a donné envie de faire cette enquête. Tu as dit tout à l'heure, elle-même n'est pas intégriste, elle n'a pas objectivement de raison de se plonger dans ce milieu, pourtant il l'a attirée à un moment donné.
Oui, on peut même dire qu'elle avait... Elle en avait une sainte horreur là, des intégristes au départ. Et elle, une femme éprise de liberté qui ne peut comprendre cette femme voilée que comme une femme prisonnière. Mais bon, les hasards de la vie font qu'elle doit assister à un colloque sur le fondamentalisme avec des étudiantes marocaines islamistes. Et elle se rend compte que ces femmes ne sont ni des hallucinées, ni des hystériques, ni des fanatiques. Et ça lui donne un sentiment étrange de malaise en elle-même. Et elle se dit, mais au fond, peut-être que ce que je pense est très stéréotypé, je ne les connais pas, ces femmes. Au fond, qui sont-elles? Au fond, pourquoi est-ce qu'elles se sont voilées? Pourquoi elles sont devenues des croyantes si ferventes de l'islam, du Coran, etc. Alors elle décide de faire un voyage qui la conduira en Égypte, dans les Émirats arabes unis, au Koweït, au Liban, en Turquie et en Algérie, au retour. Et partout, elle va poser la même question aux femmes islamistes. Donc elle va chercher les milieux, chaque fois des personnalités islamistes, et chaque fois elle va leur poser la même question, au fond. Pourquoi vous voilez-vous ou vous revoilez-vous, parce qu'elle en a rencontré qui avaient passé une partie de leur vie dévoilée, et pourquoi acceptez-vous d'être séparés des hommes, donc la non-mixité dans les espaces privés et publics? Pourquoi acceptez-vous la polygamie, la répudiation, enfin ces règles qui sont dans la charia? Expliquez-moi. Moi, je suis musulmane comme vous, mais je n'accepte pas ça. Je ne me sens pas une femme complète si je me voile, etc. Alors, c'était pour elle donc un mystère. Elle voulait en savoir plus.
Donc elle est en fait partie un peu de son sentiment à elle, pour essayer de comprendre ce que les autres vivaient.
Oui, elle est partie d'un malaise tout à fait personnel, et puis aussi du sentiment peut-être de passer à côté de certaines vérités ou de passer à côté de certains événements de ce monde d'aujourd'hui. Bon, qui apparemment prend de plus en plus d'importance, hein, enfin surtout ces dernières années, surtout depuis la révolution iranienne. D'ailleurs, on lui dira souvent au cours de son pèlerinage, si je peux dire, dans tous ces pays, que les courants islamistes sont fortement renforcés à partir de la révolution iranienne, qui n'a pas seulement apporté les idées, mais a apporté beaucoup d'argent aussi, hein. Beaucoup d'argent, beaucoup de programmes de télévision, beaucoup de livres, beaucoup de prêcheurs payés dans les mosquées, enfin, etc. Beaucoup d'argent.
Voilà, donc une propagande importante.
Ah oui, très bien organisée.
Tu parlais tout à l'heure qu'elle a chaque fois recherché les milieux islamistes, intégristes en particulier. Quand tu dis islamiste, tu penses intégriste.
Oui, oui. C'est-à-dire, oui, les femmes qui... Bon, c'est-à-dire qu'elle a essayé de chercher, elle n'a pas toujours trouvé non plus, parce qu'elle avait quelques adresses. D'ailleurs, c'est une chose que j'ai beaucoup aimée dans le livre et qui le rend très proche, c'est que la journaliste raconte comment elle construit son enquête. J'entends dans les menus détails, elle arrive par exemple au Caire, et Et puis elle est dans toutes les incertitudes du début d'une enquête. Elle ne sait pas très bien ni où loger, ni comment se comporter, ni par qui commencer. Enfin, elle nous raconte ça. Enfin, ça nous la rend très proche. Et on n'a pas l'impression d'être en face d'une intellectuelle qui a préparé tous ses papiers, ses interviews avec une perfection complète, etc. Non, elle hésite beaucoup, elle a beaucoup de problèmes. En plus, elle nous donne une atmosphère de toutes les villes qu'elle a parcourues. Elle évoquait très bien, surtout ces villes des pays des Émirats arabes unis, où au fond il n'y a que du désert, du ciel bleu et la mer. Apparemment il n'y a rien. Elle arrive à nous faire envie même d'y aller. Ou aller, évidemment.
Pas en ce moment, en tout cas, surtout. Tu parles des villes. Est-ce que ça veut dire qu'elle a concentré son enquête sur les femmes vivant dans les milieux urbains? Elle n'est pas allée à la campagne?
Non, elle n'est pas allée à la campagne. Ce sont des citadines. Évidemment, elle a rencontré quand même principalement des femmes instruites, des femmes qui ont étudié dans les pays mêmes ou à l'étranger, quelquefois. Ce qui, d'ailleurs, ne les a pas, occidentalisées en général, très curieusement. Enfin, celles qu'elle a rencontrées, c'était évidemment des femmes de milieu intégriste. C'est des femmes qui avaient des fois un doctorat en chimie fait en Angleterre et qui n'avaient aucun problème à rentrer chez elles, à se revoiler et à se soumettre à des autorités masculines à différents niveaux dans leur vie quotidienne. Pour moi, les connaissances scientifiques n'étaient pas un danger pour l'idéologie religieuse. Hein. Bon, ça, comme une parenthèse.
Mais ça, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure. C'est là où on voit aussi le lien entre une histoire très précise, très concrète, et puis une enquête sur plusieurs femmes. Apparemment, on retrouve que le fait du savoir ou de l'éducation intellectuelle n'empêche pas du tout de se soumettre à la loi de la religion islamique.
Non, mais toutefois, bon, l'auteur, au moins, elle veut voir un espoir dans l'instruction. Parce qu'elle dit, bon, d'une part, Les milieux masculins islamistes ne remettent pas en question le fait qu'une femme a le droit d'être instruite, a le droit d'aller à l'école, a le droit de savoir. Bon, c'est pas remis en question apparemment. Et cette Marocaine pense que à la longue, une femme instruite voudra utiliser son savoir. Une femme instruite voudra aller plus loin. Elle voudra connaître non seulement ses devoirs, mais aussi ses droits. Elle fera peut-être une relecture de l'islam. Bon, ce n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais j'entends. Elle le met quand même comme un espoir à la fin d'un périple qui est plutôt un petit peu inquiétant, qui pourrait nous dire, oh, mais vraiment, tout est bloqué. Ah, donc, je crois que l'instruction est quand même... Évidemment, c'est comme tout, ça peut être une arme à double tranchant, mais... Notre auteure ici, elle veut plutôt le voir comme une chance pour, dans l'avenir, pour les femmes, de se libérer, en tout cas de certaines emprises.
En tout cas, pour confirmer ce que tu dis, on peut quand même constater que dans un pays comme l'Algérie, qui a à faire face à des problèmes très importants liés à une très très forte démographie, eh bien, comme par hasard, qui n'envoie-t-on pas à l'école parce qu'on a des moyens limités pour les envoyer? C'est les petites filles. Donc, quand on voit bien que si on doit restreindre, disons, l'éducation de quelqu'un, c'est quand même celle des filles qu'on restreindra et ce n'est pas celle des garçons.
Oui, mais ça c'est lié, à l'ensemble des problèmes que souffrent les pays dits en développement. Dès qu'il y a des limitations économiques, évidemment, d'accord, ce sont les filles qui ont... Mais j'entends sur le principe... Ils reviennent pas sur le fait que les filles devraient être instruites, apparemment. Oui.
justement, Evelyne, maintenant, est-ce que tu pourrais nous raconter justement alors quelles sont les réponses que les femmes ont données à Hinde Tardji, donc par rapport aux questions qu'elle leur a posées? Pourquoi se revoile-t-elle ou pourquoi se voile-t-elle tout court? Pourquoi accepte-t-elle toutes ces règles qui visent les femmes en particulier dans la société musulmane, la non-mixité, enfin cette société complètement divisée en monde des femmes, monde des hommes? Et où effectivement la femme, on a l'impression, n'existe que quand elle est cachée, autrement elle devient un objet absolument monstrueux. Enfin, c'est peut-être exagéré, mais on a quand même cette sensation qu'il faut toujours la cacher, autrement ça va pas.
Bon, alors la première réponse est le Coran en donne l'ordre. C'est une règle de l'islam, c'est écrit dans tel et tel hadith. La femme doit être voilée sauf les mains et le visage, parce que, dit-on, tout son corps est ce qu'ils appellent en arabe avra, c'est-à-dire tout son corps peut provoquer des désirs sexuels chez l'homme. Donc, il faut cacher son corps, sauf le visage et les mains. Mais même dans certains endroits, ça va plus loin, puisqu'il y a des femmes qui se mettent un masque où on voit plus que leurs yeux, et des gants, on voit même pas leurs mains. Les très très fanatiques se couvrent complètement. Donc il y aurait dans le Coran, mais d'autres le dénient. Dit que en fait dans le Coran, on dit simplement que la femme doit être décente. On donne pas plus de détails. Apparemment, dans d'autres versets, des interprétations, ou c'est pas ce qu'ils appellent des hadiths, je ne sais pas exactement ce que c'est, qu'il y aurait des règles plus précises, concrètes, qui disent donc qu'il faut le voile sur la tête, il faut être couverte jusqu'aux pieds, etc. Mais l'idée, c'est que la femme, par son corps, ne peut provoquer que des désirs et des déséquilibres dans l'homme. On dit même en Algérie que l'homme vole à cause d'elle, parce que la luxure de la femme fait que l'homme doit aller voler pour satisfaire, des absurdités de ce genre. Donc les femmes disent, bon, on suit une règle, le Coran veut qu'on soit voilé, donc on se voile. Mais quand elle va un peu plus loin, et si elle a la chance d'avoir une interlocutrice qui veut dévoiler un petit peu plus sa pensée et son cœur, elle se rend compte que les femmes se sentent en paix, littéralement protégées par ces habits qui sont très impersonnels. Et puis souvent en noir. Ça, c'était une chose qui m'a frappée aussi. Les hommes en blanc, les femmes en noir, partout dans ces pays. Alors, elles sont protégées et à l'abri d'un regard de l'homme qui est apparemment très agressif dans le monde arabe. Alors, par exemple, il y avait le témoignage d'une Égyptienne et qui le disait très franchement, j'ai trouvé finalement la paix de l'esprit, je me sens plus sereine depuis que j'ai mis ce genre de robe et puis mon voile sur la tête. Je ne suis plus cet objet de désir, ce corps désirable que regardent tous les hommes. D'ailleurs, je veux être connue comme un esprit et pas comme un corps. Je veux qu'on me reconnaisse dans mes autres qualités humaines que mes qualités physiques. Et ça revient aussi très souvent. Il y a une journaliste aussi égyptienne qui dit « Ces grands habits ne m'empêchent pas du tout de faire bien mon travail. D'ailleurs, je sens que mes collègues ne s'intéressent plus qu'à ce que je fais et pas ce que je suis physiquement. » Et ça me donne beaucoup de paix dans mon travail. Pour travailler, de paix intellectuelle. Je suis une travailleuse et c'est tout.
Toi, Annette, je crois que dans ton livre, effectivement, tu as un exemple de ce que vit Aïcha qui confirme en quelque sorte ce que nous vient de nous dire Evelyne par rapport à son propre vécu à elle quand elle est en Algérie.
Oui, effectivement. Donc, on reprend l'histoire de cette jeune fille qui est en fait plus française qu'algérienne et qui, lorsqu'elle est en Algérie, a un regard tout simple sur ses consœurs. Alors voilà ce qu'elle dit. Les femmes passent rapidement, les yeux toujours baissés, la plupart voilées. Et tous ces regards masculins se braquent sur elles. Le voile excite l'imagination. Quand je sortais, toujours accompagnée, ses regards de désir me terrifiaient. J'avais l'impression d'être sans cesse traquée. C'est un sentiment qui devient très vite insupportable, une violence psychologique presque pire qu'un viol. Pendant ces 8 mois, je n'ai cessé de me demander ce que ces hommes attendaient, ce qu'ils espéraient. Je crois qu'ils se moquent de ce qui peut leur arriver, de ce qui les attend ici-bas. Ce sont des musulmans, de simples passagers sur terre. Alors voilà comment Aïcha interprète sa situation. Effectivement, on peut faire des comparaisons à différents niveaux de ce problème-là. Et simplement, je crois qu'on peut en tout cas dire que c'est plus complexe que ça n'en a l'air.
Bon, effectivement, tu as parlé de peur, hein, Annette, et dans ton livre, on parle de peur. Targi parle aussi de peur. Elle dit ces femmes qui se protègent dans leurs habits, elles se protègent d'un irrationnel. En fait, c'est l'irrationnel de leur peur. Elles ont peur, et effectivement, elles sont. Il y a un certain terrorisme qui est pratiqué contre elles pour qu'elles s'habillent comme ça. On en parle dans la période, dans la partie sur l'Algérie. Elle en parle aussi pour la partie égyptienne, où vraiment on a agressé des femmes qui n'étaient pas voilées. Hein, en Algérie, bon, il y a le cas des étudiantes dans la ville de Blida, où il y en a une qui était fouettée et tout, parce qu'elles n'étaient pas vêtues comme il le faut. Bon, maintenant, il y a aussi d'autres explications de ce phénomène de revoilement un peu partout. Et il semble que, ça fait pas de doute, évidemment, que ces sociétés arabes sont des sociétés très, très secouées, très martyrisées, très, par l'occidentalisation qui s'est faite à travers la colonisation. Donc là, il y a eu beaucoup de... Je ne sais pas comment l'exprimer. Il y a beaucoup de déséquilibre, il y a beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir, il y a peu d'avenir pour, d'une certaine manière, pour beaucoup de jeunes. Donc il y a beaucoup de peurs et qui font qu'on essaye de se raccrocher quand même à quelque chose. Alors quoi ? Il faut retrouver quelque chose de traditionnel. Il faut que la tradition reste en place pour certaines choses. On veut bien. Je sais pas, dans les Émirats Arabes Unis, on veut bien abandonner le chameau, on veut plus abandonner ça à sa Mercedes chromée avec le téléphone à l'intérieur. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait garder au fond qui serait stable et qui serait un peu un symbole auquel s'accrocher ? Eh
ben, l'identité.
Voilà. Une identité, exactement. Oui, d'ailleurs, c'est comme ça que l'exprime un professeur. On a perdu notre personnalité avec l'occidentalisation. Il nous faut retrouver des symboles, il nous faut retrouver une identité. Et l'alternative à cet occidentalisme qu'ils ne veulent pas parce qu'il les a perturbés, eh ben, c'est le retour à l'islam. Et puis, c'est la femme, au fond, qui va être le... La femme, justement, voilée, va marquer ce retour à la tradition. Ils prendront pas sur eux, mais ils utiliseront la femme pour se rassurer et se raccrocher, au fond, à quelque chose. Alors, il y a certainement cet élément-là, parce qu'il y a des femmes qui se revoilent par conviction personnelle, mais il y en a quand même beaucoup qui le font sous la pression de la famille ou du quartier, du groupe. Bon, alors ça, c'est une des choses. On a encore le temps de parler d'autres choses ou il reste encore un tout petit peu de temps. Bon, elle a demandé aux femmes aussi, mais est-ce que vous ne voudriez pas travailler, être à l'extérieur pourquoi restez-vous à la maison ou pourquoi rentrez-vous à la maison une fois que vous vous mariez, vous avez des enfants. Alors, de nouveau, selon les pays qu'elle a traversés, elle a d'autres réponses, parce que les situations économiques ne sont pas les mêmes au Koweït qu'en Égypte. Les femmes égyptiennes, apparemment, à moins qu'elles soient vraiment dans des postes très élevés de l'administration publique, comme ça, ont des travaux qui ne sont pas spécialement intéressants. Et elles m'ont rappelé beaucoup la situation des femmes soviétiques qui sont obligées d'aller travailler, mais qui, en fait, pour lesquelles le travail n'est pas un épanouissement, n'est pas une libération, mais il est plutôt une charge, parce que ça signifie des longs transports, ça signifie des problèmes pour caser les enfants, parce que non, pas nécessairement ces citadines, une grand-mère à la maison, ou peut-être elles ont plusieurs sœurs, il n'y a qu'une grand-mère. Bon, c'est pas si facile de trouver des solutions. Et ce qu'elles gagnent sert à peine à payer, en fait, les frais qu'occasionne leur absence de la maison. Si bien que, au fond, si elles peuvent, elles préfèrent la situation d'être dans la maison, parce qu'elles ont le temps de vivre plus comme ça, qu'elles acceptent plus facilement ces limitations, parce que fait aller à l'extérieur, c'est plus oui, c'est une fatigue, c'est une charge, c'est vraiment pas un développement personnel. En tout cas, dans le cas de femmes du Caire en Égypte. Au Koweït, ça se présente un peu différemment, parce que toutes les Koweïtiennes sont plus ou moins, ou étaient plus ou moins des femmes riches, donc elle n'avait pas les mêmes problèmes. D'ailleurs, là-bas, il y a des tas de facilités du point de vue crèche, gratuité. Elles peuvent étudier, elles peuvent enfin faire beaucoup de choses si elles ont envie. Mais apparemment, elles n'ont pas tellement envie, parce qu'elles ont été tellement préparées par l'enseignement à l'école et les médias à être des femmes qui ne pensent pas trop, mais qui sont prises en charge, qu'elles ont même pas, elles aspirent pas nécessairement à faire tout ce qu'elles pourraient en fait faire.
Mais donc, pour conclure sur ton livre, Evelyne, cette journaliste Indé Tardji, elle, chaque fois, finalement, ne se contente jamais de la réponse toute simple et crue que peuvent lui donner certaines femmes, mais vraiment, elle essaye de comprendre ce qu'il y a derrière certaines affirmations. Tout ce que tu viens de nous raconter, c'est pas les femmes elles-mêmes qui ont décodé comme ça leur démarche.
Non, bien sûr que non. C'est elle qui l'a. Elle a essayé d'arracher, au fond, des petits pans d'explications. Et moi, j'aimerais terminer, si je peux encore le faire, par, au fond, sa conclusion, qui me paraît résumer un peu tout le livre. Elle dit ainsi. Pour de multiples raisons sociales et personnelles, les muhajabats, c'est-à-dire ces femmes voilées, ont cherché refuge dans l'islam. Panser les blessures d'une modernité douloureusement vécue. Assouvir la soif d'absolu engendrée par le désert actuel des utopies. Fuir les contradictions d'une société en pleine mutation en se barricadant derrière un code sécurisant parce que familier. Créer une possibilité de communication avec l'homme, cet inconnu, par le biais du combat pour un même idéal, quitte à occulter les problèmes cruciaux du couple, le hijab, c'est-à-dire le voile, c'est tout cela et tant de choses encore. Bon, voilà, on échange à bâton rompu toute une série de remarques sur ce que nous suscite la situation de ces femmes arabes. C'est vrai que
Inévitablement, on a un ressentiment, nous, comme femmes occidentales, par rapport à leur situation. On est choqués. Bon, moi, je ne vais pas vous parler ce soir d'un autre livre que j'avais lu, moi, qui s'appelle La femme lapidée, écrit par un journaliste iranien, Fredoun Sahebjam, qui avait déjà écrit une histoire bouleversante, celui d'un jeune gamin iranien qui avait dû partir à la guerre et qui avait pour titre « Je n'ai plus de larmes pour pleurer ». La guerre qui opposait Irakiens et Iraniens. Et là, cette fois-ci, il raconte l'histoire épouvantable d'une femme dans un village iranien qui va se faire lapider alors qu'elle est évidemment complètement innocente de ce dont on l'accuse. Et tout le village va devoir participer. Et surtout, les femmes vont être obligées de participer à cette condamnation, à ce jugement absolument difficilement soutenable, même quand on lit, je veux dire, même quand nous ici on a ce recul. Mais chaque fois qu'on lit ces livres, c'est sûr, on a notre estomac qui bouge et qui s'agite, notre cœur qui... parce que pour nous, c'est pas simple. Je sais pas comment vous le ressentez. Tu disais, Annette, bon, ben, c'est vrai que nous, quand on voit, on a aussi été apparemment l'objet aussi de convoitises sexuelles. On est toujours, la pub en est la preuve, et chaque jour, on aurait envie de mettre à l'index un certain nombre de publicistes et de marques. Mais je sais pas, quand on pense aux femmes françaises ou aux femmes musulmanes qui ont dû trancher, par exemple, l'année passée ou il y a 2 ans, je sais plus, la fameuse histoire du port du voile dans les écoles. Je veux dire, c'est vrai, comment nous, occidentales, pouvons-nous nous situer par rapport à ce qu'on connaît de la vie de nos consoeurs musulmanes? C'est pas si simple. Enfin, je sais pas comment vous le ressentez. Evelyne.
Oui, moi, je me disais un peu avec une féministe d'un certain âge, égyptienne, qui apparaît dans le livre et qui est une disciple de la première féministe arabe, que c'est un peu dommage de... On a l'impression, enfin, disons, pour un esprit moderniste, comme dirait notre auteure marocaine, on a quand même l'impression de revenir à la case départ, même si le voile d'aujourd'hui est plus exactement le voile d'autrefois. Mais je me disais, en lisant la manière dont la première féministe arabe s'est dévoilée, et c'était une égyptienne qui, en 1923... revenant de l'étranger sur le bateau, arrive à quai devant la foule qui attend les passagers, descend la passerelle et arrache son voile devant tout le monde, au grand scandale évidemment des assistants. C'était donc une égyptienne qui s'appelle Oda Sharawi. Je me dis, bon, ça s'est passé en 1923 et aujourd'hui, alors on revient en arrière, où est-ce que la société d'aujourd'hui est tellement plus compliquée que apparemment, on ne revient pas en arrière, mais on est obligé de faire ce... Les femmes arabes sont obligées de faire ce détour pour, d'une certaine manière, rester dans l'espace public qu'elles ont quand même conquis. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a 70 ans, elles étaient vraiment que dans la maison. Donc, entre-temps, elles sont sorties de la maison, elles ont investi l'espace public. Les hommes ne s'y sont pas résignés facilement. Et ayant commencé, disons, d'attaquer, d'agresser ces audacieuses qui osaient faire ça, alors qu'est-ce qu'ont fait les femmes? Elles ont repris le code traditionnel, disons, en se voilant, pour obliger, au fond, les hommes à respecter de nouveau ce code et à le respecter, elles.